Maintenant, nous voulons entrer dans la méditation de la parole et peut-être aussi aborder brièvement la situation telle qu'elle est en ce moment, également sur le plan politique, bien que vous sachiez qu'en ce lieu, nous n'y faisons référence que lorsque les choses sont en relation avec la prophétie biblique. Tout le reste, nous le laissons aux politiques. Tout d'abord, encore le psaume 34 que nous avons lu, ou que nous avons lu en partie. Verset 2. Je louerai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. En ces jours, j'ai réfléchi au chemin que les enfants de Dieu ont parfois à parcourir, avec combien d'épreuves et de difficultés, ou combien les chemins peuvent être parfois raides et épineux. Et parfois, ici et là, la pensée peut venir, est-ce que cela doit vraiment être ainsi? Ne pourrait-ce pas être un peu plus facile? Mais lorsque nous regardons dans les Saintes Écritures, les chemins des enfants de Dieu n'ont jamais été pavés de roses, mais plutôt d'épines. Des épreuves, des persécutions, des tribulations de toutes sortes. On peut toujours trouver tous ces exemples dans la Bible. Au verset 2 ou 3, nous pouvons lire dans le psaume 34, verset 3, « Mon âme se glorifie dans le Seigneur, les humbles écoutent et se réjouissent. » Pourquoi les humbles? Parce qu'ils ont trouvé grâce devant le Seigneur. Et qu'ils se trouvent là où des hommes ont fait l'expérience de Dieu et peuvent rendre témoignage de ce que Dieu a fait en eux. Mais les orgueilleux passent à côté de Dieu, passent à côté de la véritable prédication et de ce que le Seigneur fait. Mais Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Ainsi, là où le Seigneur est expérimenté, les humbles se trouvent dans le pays. Ils se sont soumis à la puissante main du Seigneur. Ils s'adaptent ou se soumettent à sa volonté et écoutent volontiers lorsque d'autres ont fait l'expérience de Dieu, parce qu'ils peuvent témoigner de la même chose. Verset 3, il reprend le psaume 34. « Mon âme se glorifie dans le Seigneur, les humbles écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi le Seigneur et célébrons son nom. » Verset 4. Vous savez, récemment, j'ai été dans quelques réunions charismatiques et je ne juge pas, mais tout était tellement artificiel et accompagné de musique de manière à mettre tout en vibration. Les vibrations que produisent le Saint-Esprit ne viennent pas par une quelconque musique particulière, mais c'est l'effet de la parole de Dieu qui est entré dans nos cœurs par la révélation. Frère Branham l'avait si bien présenté, disant une simulation par le Saint-Esprit, à savoir lorsque la parole est rendue vivante et que la révélation divine devient ainsi lumière sur notre sentier. Puis il est dit dans la suite au verset 5, psaume 34, « J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Même les croyants passent par les différentes situations, par différentes situations de la vie. Et alors nous avons la possibilité de lever les yeux vers le Seigneur. Parfois, nous avons l'impression qu'il ne nous a pas exaucés, mais seulement alors nous ne reconnaissons pas sa volonté à ce moment précis. L'impression peut venir que Dieu ne nous a pas exaucés. Mais Dieu sait le mieux ce qui est bien pour nous. Et à la fin, nous pourrons tous dire et témoigner, il a tout fait pour notre bien, à nous tous. Il est dit au verset 6, psaume 34, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Ce n'est toujours pas facile dans certaines situations et épreuves de la vie, ce n'est pas facile de regarder au Seigneur. Mais c'est justement là qu'il est nécessaire que nous puissions le faire, car il est écrit, « Invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. » Au verset 7, il est dit, psaume 34, « Quand le malheureux crie, le Seigneur entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Mais parfois, les détresses peuvent durer un peu et nous souhaiterons que ça aille un peu plus vite. Alors, ainsi, nous devons nous exercer à la patience, dans la foi, dans la persévérance, sans douter, mais croire que le Seigneur ne tarde pas et que nous puissions croire qu'il n'a jamais fait d'erreur. Il faut simplement s'attacher à cette foi biblique, à cette conviction, et cela dans chaque situation de la vie, même si tout autour de nous est bouleversé. Ce n'est que là que nous resterons fermes dans la foi et que nous allons rendre gloire au Seigneur par la foi. Au verset 8, nous lisons, psaume 34, « L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. » Verset 9, « Sentez et voyez combien le Seigneur est bon. » Allons dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 21. Colossiens 1, verset 21. « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. » Verset 22. « Il vous a maintenant réconciliés dans sa mort. » Il vous a réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable et sans reproche. Verset 23. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Ici, il nous est dit ce que Dieu a fait en Christ. Verset 22, il reprend, « Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable et sans reproche. » Combien de fois l'avons-nous dit? Il était nécessaire que Dieu se révèle sous forme humaine afin de pouvoir payer le prix pour l'humanité et expier à notre place en Christ pour nous tous, pour nous accorder le pardon par grâce. Mais non seulement le pardon et la réconciliation, mais le salut total pour l'éternité, et l'achèvement pour toujours, pour nous présenter saints, irréprochables et sans reproche devant lui. Golgotha est la véritable garantie de la rédemption totale dans l'âme, l'esprit et le corps. Et aussi certain que le Seigneur Jésus a vaincu la mort et est ressuscité le troisième jour, aussi certain une autre résurrection garantie déjà dans sa résurrection. Et nous n'avons pas à nous inquiéter, car nous avons affaire à une œuvre de rédemption accomplie, parfaite devant Dieu et par Dieu. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que cela ne puisse se manifester. Il reprend le verset 22, Colossiens 1. Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable et sans reproche. Pourvu que nous croyons en lui, ou que nous le croyons. Et je voudrais encore souligner ces termes, croire, la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu ou d'être agréable à Dieu. Toutes les choses que Dieu a accordées nous sont données par la foi en Jésus-Christ. Et cette foi qui a été transmise au saints une fois pour toutes, nous voulons nous y attacher. Pour cela, nous voulons combattre et nous engager. Car ce ne sont pas des œuvres humaines qui nous donnent le salut, mais le Dieu bienheureux et le seul souverain nous a déjà sauvés par ce qui s'est accompli à Golgotha. Nous ne sommes pas seulement devenus croyants, nous avons cru en lui, notre Rédempteur, qui achèvera aussi l'œuvre qu'il a commencée. Et ici, l'appel est donné. Colossiens 1, verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. Amen. Peut-être que cela ne correspond pas tout à fait ici, mais quelqu'un qui m'est proche, une sœur, avait eu une révélation que je ne pouvais tout simplement pas accepter. Elle avait une révélation qu'elle devait aller en tant que missionnaire en Afrique, et j'ai dû lui dire, « Chère sœur, cette révélation n'est pas en accord avec la parole de Dieu. » Alors des paroles sont sorties de sa bouche que je n'oublierai jamais. Elle a dit à peu près mot à mot que si tu m'enlèves cette révélation, alors tu m'enlèves la foi en Jésus-Christ. Et ma réponse était très simple. Je lui ai dit, je te laisse la foi en Jésus-Christ. Mais la fausse révélation, je ne peux pas la laisser ainsi. Il y a des gens qui appellent des révélations des choses qu'elles ont dans le cœur et peut-être qu'elles portent depuis longtemps pour ensuite en rêver et appeler cela révélation. Chaque révélation qui vient de Dieu doit et sera en accord avec la parole de Dieu. Et il est dit ici, verset 23, Éphésiens 1, « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile. » Une espérance qui n'est pas simplement une espérance générale, mais une espérance que Dieu a légitimée et placée en nous. Une espérance qui ne conduit pas à la déception, mais à l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Oui, elle doit conduire. Parce que c'est une expérience que nous portons légitimement en nous à cause ou sur base des promesses que Dieu a données dans sa parole. Il est écrit dans la suite du verset 23. Cet évangile a été prêché à toute créature sous le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu ministre. L'évangile de Jésus-Christ est le seul message de salut qui existe. Il est écrit, Pierre l'a prêché, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Colossiens, chapitre 3, les quatre premiers versets. Colossiens 3, les quatre premiers versets. Verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous les choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4. Colossiens 3. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ces paroles sont connues de nous tous. Et nous nous souhaitons les uns les autres qu'elles deviennent une réalité complète dans notre vie. Que nous ayons été crucifiés avec Christ, morts avec lui, ensevelis avec lui, ressuscités avec lui pour une nouvelle vie, afin de chercher les choses d'en haut où Christ habite. Et l'Écriture dit, là où est votre trésor, là aussi sera votre corps, votre cœur, pardon. Nous sommes encore sur la terre. Nous conduisons tout comme les autres avec la voiture ou prenons l'avion, quoi que ce soit. Les croyants et les incroyants se trouvent sur la terre dans les mêmes situations. Nous n'avons pas un plus grand salaire. Tout est réglé de la même manière sur la terre. Mais nous sommes des hommes qui portent Christ dans leur cœur. Nous avons compris que nous n'avons pas ici-bas des cités permanentes, mais que nous cherchons celle qui est à venir. Et nous savons que le Seigneur nous a précédés pour nous préparer une place et qu'il reviendra pour nous prendre avec lui. Cherchez, recherchez les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. C'est le verset 2 de Colossiens 3. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non de celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Une nouvelle vie divine en nous, opérée par le Saint-Esprit sur base de la parole de Dieu que nous avons reçue comme semence divine en nous. Et puis vient le verset essentiel, verset 4, Colossiens 3. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Puisse-t-il en être réellement ainsi, que nous ne soyons pas seulement devenus croyants, mais que Christ, le Seigneur ressuscité, puisse déjà manifester en nous sur la terre sa vie de résurrection, et que nous ayons part à sa nature divine et que nous attendions seulement la transformation de nos corps qui aura lieu lors du retour du Seigneur. Revenons à ce qui a déjà été dit, à savoir que les temps des croyants deviendront particulièrement difficiles lorsque Dieu fera quelque chose de spécial sur la terre. Je voudrais lire quelques passages à ce sujet. Le premier dans Actes des Apôtres, chapitre 7. Actes des Apôtres, chapitre 7. Ici, nous lisons à partir du verset 17. Actes des Apôtres 7, verset 17. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et multiplia en Égypte. Verset 18. Jusqu'à ce qu'il s'éleva un autre roi qui n'avait point connu Joseph. Verset 19, acte 7. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraitait nos pères au point qu'il exposait leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. Verset 20. À cette époque, naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Verset 21. Et quand il lui était exposé à la fille de, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Je ne veux pas continuer la lecture. Vous verrez tout de suite de quoi il s'agit. Lorsque Moïse alla en Égypte et parla sur ordre de Dieu, « Laisse aller mon peuple !» La situation s'est aggravée. Et elle s'est aggravée à tel point pour les Israélites qu'ils furent beaucoup plus opprimés et que le temps qui suivit devint pour eux insupportable. Je voudrais à cela lire Exode chapitre 4, Exode chapitre 4 à partir du verset 19. Je vous en prie, gardez en vue que c'était le temps où Dieu avait envoyé son prophète Moïse pour accomplir la promesse qu'il avait donnée à Abraham, à savoir, après 400 ans, je ferai sortir ta postérité d'Égypte. Exode, chapitre 4, à partir du verset 19. Nous lisons peut-être ici et là un verset. Exode 4, à partir du verset 19. Nous lisons comme suit. Le Seigneur dit à Moïse, dans le pays de Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Verset 20. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, verset 21, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi, j'endurcirai son cœur et il ne laissera point aller le peuple. Avez-vous remarqué? Verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi a parlé le Seigneur. Israël est mon fils premier-né. Verset 23. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Vous pouvez relire l'histoire. Dans tous les cas, la situation s'est tellement aggravée. La fabrication de briques est devenue beaucoup plus difficile. Auparavant, les matériaux étaient livrés, mais à partir de ce moment-là, ils devaient eux-mêmes aller chercher le matériel et faire le travail. Celui qui lit toute l'histoire a l'impression qu'au moment même où Dieu a commencé à accomplir sa promesse, la situation du peuple de Dieu est tout d'abord devenue si difficile qu'elle était presque insupportable. Nous pouvons tous penser que lorsque Dieu commence à agir, alors une bonne chose se produit après l'autre. Et surtout, lorsqu'un prophète vient avec la verge de Dieu, avec le « ainsi parle le Seigneur », alors tout est réglé tout d'un coup. Tous les énigmes sont résolues. Tous les problèmes, toutes les questions trouvent leur réponse. Cela peut être ainsi, mais ce n'est pas une obligation. Moïse était le prophète envoyé de Dieu. Le temps était venu, les 400 ans étaient accomplis. Le moment était venu de faire sortir Israël à main forte. Et Dieu dit ici, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Pour nous, il aurait été juste que Dieu dispose plutôt le cœur de Pharaon de manière à ce qu'il soit en accord avec la parole, afin que le peuple puisse sortir dans la bénédiction, sans combat, sans que tout ce qui s'y est ajouté ne puisse avoir lieu, mais simplement en chantant des beaux cantiques et des louanges à notre Dieu. Ce serait notre manière de faire les choses. Mais la manière de Dieu est différente. Je vous lis à ce sujet un passage de l'Épître aux Romains. Et en particulier, dans les Épîtres aux Romains, Paul a exprimé des choses en relation avec l'Ancien Testament. Et ici, dans Romains chapitre 9, à partir du verset 17, il est écrit ceci. Romains 9, à partir du verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité exprès ou à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié sur toute la terre. » Nous savons que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Les miracles que Moïse accomplissait sur l'ordre de Dieu se succédèrent alors. Et chaque fois, le cœur de Pharaon était de nouveau endurci, plus endurci, jusqu'à ce que la dixième plaie vienne et que le jour soit proclamé où un agneau devait être immolé et que tous devaient manger la Pâque, mettre leurs chaussures, saigner leurs reins et emprunter le chemin de la sortie. Mais, premièrement, la situation du peuple de Dieu s'est aggravée d'une manière très, très dramatique. J'ai lu cette parole et j'ai demandé, Seigneur, y a-t-il un parallèle pour notre temps? C'est une parole prophétique et une époque prophétique. Et nous aussi, lorsque nous entendons, par exemple, parler du frère Branham, qu'il avait le ministère de la parole parlée,
qu'il recevait la révélation des choses que Dieu voulait faire et qu'il devait ensuite les prononcer, et que lorsqu'elles étaient prononcées, elles devaient s'accomplir. Je crois que cela s'est produit 5 fois. Et alors, nous pourrions nous demander pourquoi Dieu n'a pas continué d'une manière aussi glorieuse. Il faut dire que même dans le ministère de cet homme béni de Dieu, la continuation ou bien la suite n'a pas eu lieu. Seulement quelques fois, afin que l'épouse sache que ce ministère devait être manifesté à la fin, que la communion avec Dieu sera si intime et si directe que la volonté de Dieu nous sera révélée non seulement concernant la prédication, mais aussi concernant le service et ce que Dieu veut voir accompli, afin que cela soit révélé, puis prononcé pour que cela se manifeste. Mais comme nous l'avons dit, Dieu a un plan avec nous, avec l'Église, avec l'épouse, avec Israël, avec tout. Dieu a un plan. Et nous devons nous soumettre à ce plan de Dieu, tout en nous attendant à tout moment à ce que cela arrive. Le peuple Israël ne connaissait pas non plus le jour exact, mais il savait une chose clairement, c'est que avec l'apparition du prophète, Dieu avait commencé à écrire l'histoire. Dieu commençait à accomplir la promesse qu'il avait donnée et il commençait à réaliser ce qu'il avait annoncé. Oui, il le savait. Mais ensuite vint les plaintes. La situation est devenue pire au lieu de devenir meilleure. Au lieu d'une délivrance immédiate, les épreuves. Épreuve sur épreuve. Maltraitance. Les anciens d'Israël allèrent auprès de Pharaon car ils étaient battus parce que le peuple n'accomplissait pas la tâche journalière. L'avez-vous tous lu? Même les surveillants qui devaient veiller à ce qu'Israël accomplisse une certaine quantité par jour, ils furent battus parce que les matériaux n'étaient plus fournis, mais ils devaient être rassemblés par le peuple. Et ils allèrent auprès de Pharaon. Partout où il y avait la détresse, il y avait des plaintes. Mais plus la détresse devenait grande, plus le cri pour la délivrance devenait pressant. La délivrance de cette situation dans laquelle ils se trouvaient. Et je veux le dire clairement aujourd'hui. Cela ne peut pas devenir plus difficile pour nous. Plus cela devient difficile, plus le cri « Viens Jésus, viens bientôt » devient pressant en nous et fait nous sortir de cette vallée de misère pour que nous entrions dans la joie. Dieu sait exactement ce qu'il fait. Et parfois, ça se fait de la manière douce, mais parfois, ce n'est pas le cas. Nous ne pouvons pas lui dicter comment faire. Si je demandais aujourd'hui à chacun qui est totalement sans souci, sans fardeau, sans quelque chose qui pèse sur lui, je ne sais pas si une seule main se lèverait. Chacun a quelque part une détresse, qu'elle soit personnelle, spirituelle, terrestre, professionnelle, dans le mariage, dans la famille, dans la société. Et parfois, certains ont l'impression que cela ne s'améliore pas.
mais que cela devient pire. Alors, nous avons encore plus de certitude que l'intervention de Dieu est d'autant plus proche. Dieu ne nous a pas promis une vie faite uniquement de soleil, mais il a promis « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et nous avons placé notre confiance en lui. Oui, oui, ça deviendra encore plus difficile. Même le prophète Ésaïe a écrit dessus. Lorsque nos frères qui nous haïssent viendront vers nous et diront, laissez-nous voir l'œuvre de Dieu afin que nous voyions votre joie. C'est écrit dans Ésaïe 65, au verset 5. Ésaïe 65, Ésaïe 66. Verset 5. Ésaïe 66, verset 5. Écoutez la parole du Seigneur. Vous qui tremblez à sa parole. Vos frères qui vous haïssent. Oui, ce sont des frères qui nous haïssent. Vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom ont dit que le Seigneur montre sa gloire afin que nous voyions votre joie, mais ils seront confondus. Oui, cela arrivera que même ceux qui ne peuvent pas croire la parole révélée de l'heure, parce qu'elle ne leur a pas été révélée par l'Esprit, il arrivera qu'ils diront néanmoins, oui, nous aimerons voir que Dieu accomplisse ce que vous avez cru, ce que vous avez prêché, enseigné. Je relis le verset 5. Vos frères qui vous haïssent, ce sont donc les autres. Ce ne sont pas les véritables enfants de Dieu, ni ceux qui appartiennent à l'épouse, car en eux est Jésus. Et là, il n'y a pas de haine, mais l'amour parfait de Dieu et l'unité dans le Saint-Esprit. Verset 5. Vos frères qui vous haïssent, qui vous repoussent à cause de mon nom, connaissez-vous de tels frères qui ont été rejetés à cause du nom de Jésus? J'en connais plusieurs. Nous sommes rejetés, mais Frère Branham disait aussi à ce sujet, lui qui considérait beaucoup la nature, les choses, il avait simplement les choses. Et il a dit, mieux vaut être rejeté ici et être reçu là-bas que de rester ici et de ne pas entrer là-bas. Celui qui est rejeté ici à cause du nom de Jésus porte en lui un signe. Car à cause de son nom, nous serons méconnus et haïs de tous. C'est ainsi que c'est écrit. Ainsi, les frères qui nous haïssent, qui nous rejettent, je l'ai encore entendu récemment au sud de l'Allemagne. Oui, ils disent, cette doctrine de Branham que Frank retransmet, il faut s'en méfier. Ce n'est pas une doctrine de Branham. Ce n'est pas une doctrine de Branham ou de quelqu'un qui la retransmet. C'est la doctrine biblique des apôtres et des prophètes, le fondement posé au commencement sous la conduite du Saint-Esprit. Et chacun doit s'y examiner et s'en tenir si il veut subsister devant Dieu. J'ai dit cela lors de la dernière grande réunion en Pologne. Car je me suis dit, le dernier jour, rien ne peut m'arriver. Et je dois simplement être ramené à l'aéroport et c'est terminé. Alors,
j'ai dû entrer dans les détails et j'ai dit, il ne suffit pas de s'être préparé de Rome depuis la Réformation. Chacun doit examiner si ce qui est enseigné vient de Rome ou de Jérusalem, de l'Église primitive. Alors, la parole d'Ésaïe chapitre 2 vient. La parole sortira de Jérusalem et la loi de la montagne de Sion. Et toute fausseté vient de Rome. Et les frères ont compris que ce n'était pas seulement des arguments. Ils ont compris que Dieu leur avait parlé par sa précieuse et sainte parole et qu'il s'agit en ces jours des décisions divines. Et non pas de savoir si nous reconnaissons un homme ou non. Un homme envoyé de Dieu se reconnaît au fait qu'il porte et apporte le message divin. Ça a toujours été le signe distinctif. Verset 5. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent. Caïn et Abel étaient aussi des frères, d'une certaine manière. Voici vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. On dit que le Seigneur montre sa gloire et que nous voyons votre joie, mais ils seront confondus. Ils savent exactement que ce ne sera jamais plus leur joie. Ce sera notre joie. En ce jour-là, nous jubilerons, nous remercierons Dieu d'avoir persévéré dans la foi en tant que des rejetés, des méprisés, des incompris, des insultés. Mais revêtus par la grâce devant Dieu, revêtus des vêtements de salut, croyant de tout notre cœur, chaque parole de Dieu sans effort, c'est bien un don, un cadeau que Dieu nous a accordé. Il est écrit ici, afin que sa gloire se manifeste. Là, il y a aussi une parole dans le prophète Ésaïe au sujet de cette gloire. Cette parole est écrite au chapitre 60. Ésaïe chapitre 60. Lève-toi, verset 1, et sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Il faut simplement que cela arrive, que la gloire du Seigneur devienne visible sur son peuple, qu'elle soit expérimentée, afin que nous n'ayons pas seulement entendu, mais aussi expérimenté ce que Dieu a promis dans sa parole. En ce qui concerne nos épreuves actuelles, nous devons les surmonter. Chacun là où il se trouve. Et je suis convaincu que Dieu nous accordera la grâce de persévérer. Et nous avons reçu des apôtres, de l'apôtre Jacques, une parole que nous pouvons prendre à cœur comme exhortation. Jacques chapitre 5. À partir du verset 7, il est écrit, il est parlé de l'avènement du Seigneur et ainsi de suite. Il est parlé de la pluie, de la première, de l'arrière-saison. Et il est écrit au verset 8, Jacques 5, verset 8, « Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Et puis, à partir du verset 10, Jacques 5, « Prenez, mes frères, pour modèle, de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom de Jésus, du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Qui sont nos exemples, nos modèles, les hommes envoyés de Dieu qui ont porté la parole que nous croyons aujourd'hui? Mais de même qu'ils ont souffert en tant que porteurs de la parole, précisément parce qu'ils étaient porteurs de la parole, ainsi nous devons aussi souffrir. Nous qui avons reçu de tout notre cœur la parole sortie de la bouche de Dieu, si nous allions dans différentes directions doctrinales, alors le diable ne se soucierait pas de nous, car nous aurions quitté le chemin étroit et droit. Mais parce que nous demeurons dans la parole et ainsi en Dieu, il doit faire cette tentative pour, peut-être, pense-t-il, nous ébranler un peu. Mais grâce soit rendue à Dieu, car l'encre de nos âmes, comme le dit l'Écriture, atteint jusqu'au-delà du voile. Ainsi, elle va jusque dans le lieu très saint de Dieu. Et ce n'est ni toi, ni moi qui l'avons fixée. Elle a été fixée une fois pour toutes par Dieu. Et rien ne peut nous ébranler, car nous croyons que les promesses de Dieu demeurent. Elles sont oui, elles sont éternellement vraies. Et que le ciel et la terre passent, ce que Dieu a dit arrivera. Prenez, verset 10, Jacques Saint. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Dans le prophète Ésaïe, nous avons lu que ceux qui nous ont rejetés à cause du nom du Seigneur demandent ou veulent voir le jour où notre joie sera parfaite. C'est-à-dire la joie du jour ou bien la joie de voir Dieu accomplir toutes les promesses que nous avons entendues de la bouche des prophètes et des apôtres de l'Ancien et du Nouveau Testament et dont nous attendons l'accomplissement en les croyant de tout notre cœur. Oui, ils ont bien dit, nous aimerons bien le voir afin de constater votre joie, afin que sa gloire soit manifestée sur nous. Ne nous inquiétons pas pour cela, et encore moins de ceux qui nous ont rejetés. Dieu est un Dieu de sa parole et de son nom et de son peuple. Et comme au jour de Noé, la promesse s'est accomplie, mais les temps plus difficiles commencèrent au moment où le prophète envoyé de Dieu apparut, et la situation des enfants de Dieu, du peuple de Dieu, devint presque insupportable. Dieu l'avait permis ainsi afin que la séparation du pays puisse se faire plus facilement. Ne vous inquiétez pas. Notre Seigneur ne peut commettre aucune erreur. Il est parfait. Il est Dieu d'éternité en éternité. Et si nous passons par des épreuves, par des malentendus de toutes sortes, par des soupçons, et savez-vous ce qui peut encore arriver? Il peut arriver que nous soyons directement blessés à l'endroit, au point où nous sommes le plus sensibles. Là où cela nous touche vraiment. Chaque être humain a certains domaines, peut-être certains traits de caractère, et ainsi de suite. Et nous sommes frappés, touchés là où ça fait le plus mal. Car c'est ainsi que nous le ressentons vraiment. Pour continuer néanmoins à croire que Dieu accomplit sa promesse, qu'il n'a pas envoyé son prophète pour que notre situation s'empire encore davantage,
mais qu'à la fin de cet envoi divin viendra la délivrance et que nous oublierons tout ce qui est derrière nous et que la gloire du Seigneur sera manifestée sur nous et parmi nous, car c'est ainsi qu'il est écrit. Et toute chair verra la gloire de Dieu, comme nous l'avons souvent dit. Nous ne regardons pas aux choses visibles qui nous entourent ou nous concernent. Nous regardons à l'invisible comme si nous le voyions déjà. Nous croyons et nous lui faisons confiance. Et nous savons qu'il fera toutes choses bien. Bien. Si nous pouvons brièvement évoquer les événements qui se déroulent maintenant dans le Golfe, Persique, alors on peut seulement dire une chose à cela. Au moins 5 passages bibliques peuvent être directement lus. C'est un avant-goût de ce qui sera fait plus tard contre Israël. De même qu'aujourd'hui, le monde entier existe, ou bien le monde entier exige que cet homme qui a occupé un petit pays rende les territoires occupés et rétablisse la pleine souveraineté. C'est ainsi que le jour viendra. Et des politiciens l'ont déjà laissé entendre. Le jour où, après que le problème du Koweït sera résolu, le problème d'Israël devra être résolu. Et alors on dira, cet homme a rendu les territoires occupés, maintenant rendez-vous aussi, à savoir la bande de Gaza et la Cisjordanie. Et maintenant rendez-vous aussi, rendez-les aussi. Et vous n'avez qu'à lire la parole prophétique. Ce qui se passe maintenant arrive simplement afin que nous qui lisons la parole prophétique, nous ne recevions pas seulement les informations des journaux quotidiens, mais que nous reconnaissions avec une compréhension spirituelle de quelle manière toutes ces choses annoncent déjà la fin et y conduisent. Mais nous pouvons être rassurés. Dieu n'a pas fait revenir le peuple d'Israël pour qu'il soit dévoré par les ennemis, bien qu'un temps de détresse viendra encore sur Jacob. C'est ce que nous enseignent les Saintes Écritures. Mais Dieu sera avec son peuple et arrangera toutes choses de telle manière que sa bénédiction demeure sur son peuple et que sa parole puisse véritablement s'accomplir. Personnellement, je me réjouis personnellement pour la première fois depuis la guerre. Je me réjouis sincèrement que toutes les frontières soient maintenant ouvertes. Et en ce qui nous concerne, que nous puissions voyager librement, quel que soit le pays de l'Est, afin d'y apporter le message divin. J'ai apporté une bannière de Roumanie qui avait été suspendue dehors, sur une immense place devant le bâtiment où les réunions allaient avoir lieu, ou ont eu lieu. Si nous faisions cela ici à Zurich ou dans d'autres villes d'Europe, nous pourrions nous aussi louer de grandes salles et elles seraient tous remplies. Nous allons vivre les jours où Dieu nous donnera le courage d'oser quelque chose en son nom. Nous avons un message de Dieu. Ce n'est pas le message d'un homme. Parfois, des frères, particulièrement en Amérique, ont utilisé la mauvaise formulation lorsqu'ils disent le message de Frère Branham. Il n'existe pas de message d'un homme. Il existe un message divin prononcé par la bouche de ceux que Dieu a appelés et destinés à transmettre sa parole. Ce n'est pas le message de Paul. Ce n'est pas le message de Pierre. Mais l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, la parole de notre Dieu. Et cela s'applique aussi à notre époque. Ce n'est pas le message d'un homme, mais le message divin de la parole que nous avons effectivement reçu par grâce. Et nous voulons le porter aussi loin, courageusement, porter aussi loin que possible. Moi aussi, j'ai toujours besoin de nouveau courage. Et vous savez que chaque être humain n'est qu'un être humain. Mais ensuite, comme cela a déjà été rapporté, il y a certaines choses qui donnent un nouveau courage, une nouvelle assurance de savoir que le travail n'est pas vain. Dieu bénit la semence semée dans tous les pays, langues et nations. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour toutes les possibilités qu'il a données afin qu'en ces jours, dans cette génération, on puisse réellement faire ce qui était impossible dans les autres générations. Juste, oui, à titre d'information, à la fin maintenant, vous allez vous réjouir. Il existe maintenant un ordinateur dans lequel on peut introduire un manuscrit écrit, par exemple avec une machine à écrire roumaine, et de l'autre côté sort un manuscrit terminé, fini, déjà avec même les bords, les bordures, prêts à être imprimés. Il existe maintenant des choses qui n'existaient pas auparavant. Et Dieu a mis dans notre cœur d'utiliser maintenant tout ce qui est à notre disposition et de fournir l'engagement le plus grand et le meilleur. Car nous croyons que le plus grand et le meilleur est encore à venir. Dieu manifestera sa gloire sur ceux qui ont cru sa parole, qui ont accepté ses promesses. Amen. Et nous nous exhortons les uns les autres à rester fidèles, à persévérer, à tenir ferme, que chacun, dans ses épreuves, tienne bon. Ensemble, nous levons les regards vers le Seigneur qui a commencé et qui achèvera au jour de son glorieux retour. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Il conduira tout glorieusement à son accomplissement. Et puisque la parole a évoqué la gloire, laissez-moi rappeler Luc 2. Lorsque la naissance du Seigneur fut annoncée à Bethléem, une lumière céleste est descendue, et la gloire du Seigneur était là, et les environnait de sa clarté. Et il fut annoncé que le Messie était né à Bethléem. Je ne serais pas surpris si Dieu faisait la même chose qu'il a fait au commencement. Je ne serais pas surpris qu'il le fasse à la fin. Nous aussi, nous sommes fils et filles de Dieu, nés de nouveau par la semence divine de la parole portant en nous la vie divine. Que la gloire du Seigneur soit visible sur nous. Que la parole trouve sa confirmation. Que ses promesses s'accomplissent. Et alors seulement, la joie sera parfaite en nous. Aujourd'hui, la joie est déjà partielle. Mais ensuite, les nuages viennent. Et nous nous demandons combien de temps devons-nous encore persévérer. Au lieu que cela s'améliore, ça s'empire. Pensez à Moïse et à l'Exode. Il apparut comme prophète et devait dire « Laisse aller mon peuple ». Et Dieu a décidé d'endurcir le cœur de Pharaon afin de pouvoir accomplir de grands miracles et des prodiges. En même temps, le peuple souffrait. et atteint un état insupportable. Mais imaginez-vous combien il fut reconnaissant pour le jour où l'exode a eu lieu. Et qu'il en soit ainsi pour nous, afin que nous devenions reconnaissants lorsque viendra ce jour glorieux où le Seigneur nous prendra auprès de lui dans sa gloire. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration, maintenant et pour toute éternité. Amen. Peut-être il y a encore ici quelques personnes qui n'ont pas encore consacré leur vie au Seigneur et qui, sous la prédication, n'ont pas encore reconnu leur état de perdu, séparé de Dieu, condamné pour toujours et voué à la perdition. Uniquement celui qui est perdu peut être sauvé. Ce n'est que celui qui reconnaît devant la face de Dieu qu'il est né dans le péché, qu'il a vécu séparé de Dieu dans le péché, et qu'aucun acte religieux pieux ne peut le conduire au ciel, mais uniquement l'œuvre de rédemption accomplie à la croix de Golgotha, à savoir par le sang précieux et saint de l'agneau de Dieu qui a été versé pour notre rédemption. Amis, nous devons vous dire la vérité devant la face de Dieu. Il n'existe aucune religion qui sauve. Il n'existe aucun acte pieux qui procure le salut. Il n'y a qu'un Dieu qui nous a rachetés en Christ. Et en lui, nous avons le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne vient au Père si ce n'est par lui. Ainsi, nous vous appelons à venir au Seigneur. Et pendant que vous prenez maintenant votre décision, que cette conviction puisse naître en vous. Je suis séparé de Dieu. Je suis condamné. Je n'ai aucune espérance vivante. Et alors, la chose se tourne en vous vers la foi en Jésus-Christ, votre Sauveur. Et alors, vous ressentez que Dieu a réconcilié le monde avec lui-même en Christ. Toi aussi, âme bien-aimée, vous ressentez votre perdition, votre condamnation, votre séparation d'avec Dieu. Et vous criez dans cette détresse, « Seigneur, sauve-moi, aie pitié de moi, pardonne-moi toute faute, tout péché, efface tout et lave-moi dans ton précieux sang. » Celui qui veut venir ainsi au Seigneur et reconnaître être perdu et désire le salut, qu'il vienne maintenant. Pendant que toutes les têtes sont inclinées, que tous les yeux sont fermés, les cœurs ouverts devant Dieu, j'aimerais prier pour vous, pour tous ceux qui veulent consacrer leur vie à Dieu. Voulez-vous lever brièvement la main? Y en a-t-il des personnes parmi nous? Alors, levez brièvement la main. Que Dieu te bénisse, jeune homme. Y a-t-il encore quelqu'un ici? Que Dieu te bénisse là-bas. Que Dieu te bénisse ici, chère dame. Y a-t-il encore quelqu'un? Vous voulez consacrer votre vie à Dieu? Merci, que Dieu te bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un ici? Merci, que Dieu te bénisse, jeune homme. Y a-t-il encore quelqu'un ici? Heureux l'homme qui entend l'appel de Dieu, se reconnaît perdu et crie pour le salut, puis reçoit l'assurance que l'Esprit de Dieu peut rendre témoignage à notre esprit
que nous avons été sauvés. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cette heure. Y a-t-il peut-être d'autres sujets de prière au milieu de nous que nous pouvons apporter au Seigneur? Levez simplement les mains. Dieu connaît tout. Que Dieu bénisse partout. Partout où il y a les besoins. Dieu sait ce dont nous avons tous besoin. Seigneur notre Dieu, ensemble nous venons devant ton trône de grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sur base du sang versé de l'agneau, nous parlons maintenant avec toi, ô Dieu. Toi qui es devenu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous te prions pour tous ceux qui sont venus à toi pour la première fois, que tu as touché par ta parole, qui ont répondu à ton appel, qui reconnaissent qu'ils sont perdus et qui en même temps regardent vers toi, afin que toi, le Sauveur, mort pour nous sur la croix, ils sont conscients que tu les as appelés aujourd'hui pour leur pardonner, pour les attirer à toi, pour faire des enfants, des hommes qu'ils sont, pour faire d'eux des enfants de Dieu. Bien-aimé Seigneur, fais qu'aujourd'hui en ce lieu, il soit manifesté que l'évangile de Jésus-Christ, le crucifié, est réellement une puissance de Dieu, comme Paul l'a écrit, une puissance qui sauve quiconque croit à l'œuvre de rédemption accomplie. Bien-aimé Seigneur, nous savons que ta parole ne retourne pas à toi vide, mais qu'elle accomplit ce pourquoi tu l'as envoyée. Fidèle Dieu, aujourd'hui aussi, en cette heure, en ce jour, ta parole accomplit ce pourquoi tu l'as envoyée. Tu as aussi vu les autres mains qui se sont levées. Tu connais les différentes détresses. Tu connais les épreuves que chacun doit traverser. Seigneur fidèle, tu nous as donné la promesse. Et quand tu passeras par le feu, je serai avec toi et l'eau ne te submergera pas. Ésaïe 40. Seigneur, notre miséricordie, et tu nous dis, quand les montagnes s'éloigneront, quand les collines chancelleront, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point. Dis le Seigneur qui a compassion de toi. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour de telles paroles dans les Écritures qui nous donnent la consolation et l'assurance au bon moment. Bien-aimé Sauveur, viens par ton esprit sur chacun. Que la parole devienne vivante. Console tous, ô Seigneur, qu'il se soit passé quelque chose pendant ce service dans chaque personne. Qu'un fruit pour l'éternité en résulte. Nous te remercions aussi pour cela, car à la fin, nous verrons ta gloire. Même si, entre-temps, la chose doit encore devenir plus sombre, encore plus difficile, mais nous savons qu'à la fin, tu rétabliras tout, tu te révéleras glorieusement, tu confirmeras ta parole, tu accompliras tes promesses, et tu béniras puissamment ton peuple
jusqu'à la transformation de nos corps, jusqu'à la victoire sur la mort et jusqu'à notre enlèvement dans ta gloire. Merci de ce que ce jour se soit approché. Tu as envoyé ton serviteur et prophète avec le message actuel pour nos jours. Et nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues lorsque nous avons parlé du thème du retour du Seigneur. Comme Pierre l'a exprimé, et nous avons été témoins oculaires de sa gloire merveilleuse. Seigneur notre Dieu, la parole prophétique, nous la tenons d'autant plus certaine. Bien-aimé Seigneur, nous te disons merci pour cela, pour ce que tu as donné la lumière et que nous pouvons tout voir dans ta lumière et de pouvoir classer et situer l'accomplissement selon ta parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui je voudrais te remercier pour le privilège de pouvoir vivre maintenant sur la terre, pouvoir croire comme dit l'Écriture, afin de pouvoir aussi vivre, expérimenter les fleuves d'eau vive. Bien-aimé Seigneur, encore une fois, je te remercie pour tous ceux qui ont levé leurs mains, qui t'ont consacré leur vie, afin que pour tous les frères et sœurs qui se trouvent dans les diverses détresses, dans les épreuves, qui dépassent presque leurs forces. Bien-aimé Seigneur, accorde aussi la compréhension et la sensibilité les uns envers les autres, afin que nous puissions être des bénédictions les uns pour les autres, que nous portions les fardeaux les uns des autres afin d'accomplir la loi de Christ, comme il est écrit dans Galates chapitre 6. Seigneur, aie pitié de nous, fais de nous une église de foi biblique ou une afin que nous puissions être appelés à juste titre église du Dieu vivant. Bien-aimé Seigneur, aie ton chemin avec nous. Que ta volonté s'accomplisse. Que ton règne vienne et que ton nom soit glorifié maintenant et pour toute éternité. Alléluia. Amen. Amen.